Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, hein. C'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la quatrième saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur deux, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on est à distance avec Benjamin. Salut Benjamin.
Salut Enzo, bonjour.
Comment va ?
Ben écoute, ça va plutôt très bien. Voilà, je suis très content d'être là. C'est une grande première pour moi de participer à un podcast. Donc voilà, je suis hyper content. Une nouvelle expérience, c'est top.
Génial. Eh bien, écoute, au top, on va pouvoir rentrer dans le vif. Qui es-tu donc, Benjamin ?
Alors, pour me présenter vite fait, je m'appelle Benjamin Cornet, j'ai 42 ans. Moi, je vis dans les Alpes de Haute-Provence, voilà, à côté du plateau de Valensole, les champs de lavande, tout ça, si certains connaissent. Donc, c'est une jolie région où je suis enseignant. Et si je suis là aujourd'hui, si tu veux, c'est pour partager en fait une expérience de vie, puisque on m'a diagnostiqué une leucémie aiguë, un cancer du sang, donc il y a un peu moins de 3 ans, en juillet 2018. Voilà.
Voilà. Bah tu nous as bien teasé la suite de l'épisode. C'est exactement pour ça donc qu'on est là aujourd'hui. Avant qu'on parle justement de ce qui t'est arrivé donc il y a 3 ans, est-ce qu'avant toute chose tu peux nous donner toi ta vision de l'échec? Comment tu vois l'échec aujourd'hui toi, Benjamin?
L'échec, ouais. Déjà c'est clair que pour moi c'est un mot qui résonne assez fort. Pour moi il y a 2 mots dans ton podcast qui résonnent très fort pour moi. C'est le mot d'échec et le mot de rebond. Voilà, j'expliquerai ça peut-être un peu plus tard. Moi, ma vision de l'échec, j'ai envie de dire, j'ai pas mal écouté d'épisodes précédents et j'ai entendu plein de très belles définitions hein, données par tes invités. C'est une opportunité de se réinventer, une occasion d'apprendre, de s'affirmer, de se relancer, de rebondir justement. Voilà, tout ça, je trouve que c'est tout à fait vrai. J'adore aussi j'ai trouvé une définition qui m'a beaucoup plu, c'est celle de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, qui dit que pour lui, échouer, c'est réussir quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça, je trouve que c'est top de voir l'échec comme ça, comme une étape qui nous rapproche un peu plus du succès. Donc, tout ça, ça me parle beaucoup. Et en même temps, si je dois être tout à fait honnête, Il y a quelque chose aussi dans cette idée que l'échec, ce serait finalement nécessairement une vertu avec laquelle je suis pas toujours hyper à l'aise. Et peut-être que je voudrais un tout petit peu relativiser, si tu veux bien. Parce que bon, c'est vrai que c'est une idée séduisante, hein, que finalement, tout ce qui nous tue pas rend plus fort, mais ça a peut-être aussi quelques limites. OK, pour une entreprise, dans le business, à l'école, moi qui suis enseignant, l'échec, c'est fondamental pour apprendre. Mais voilà, si on extrapole un peu, ça peut paraître presque un peu indécent d'expliquer, un accidenté de la route qui finit tétraplégique, qui bénéficie en fait d'une chance incroyable ou un parent, je suis papa, moi, un parent qui perd son enfant, lui expliquer que ça va lui permettre de développer des grandes capacités, des grandes qualités de résilience, ce genre de choses, ou pour reparler de ce que j'ai vécu moi, pour quelqu'un qui se bat contre un cancer, l'échec de son traitement, c'est synonyme de mort. Donc, ça va être difficile de lui expliquer que c'est peut-être une belle opportunité à saisir. Voilà. Donc, je sais pas si cette idée de l'échec qui serait nécessairement une vertu, elle est toujours soutenable. Voilà, c'est ce que je voulais te te dire. Donc, c'est pas une définition très simple que je te propose là, mais voilà, c'est la mienne. Mmh. Et pour te dire que je me méfie aussi un peu des fois du côté hyper héroïque et de celui qui franchit l'obstacle, parce qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui le franchissent pas, cet obstacle-là, et qui pour autant ont pas démérité, bien au contraire, quoi.
Ah, bien sûr, ouais, c'est cool, on va pouvoir en parler un peu plus. Mais oui, ça fait tout de suite écho à certains épisodes. Justement, moi, j'ai envie de traiter cette notion d'échec, mais c'est pas toujours à prendre au pied de la lettre, parce que comme tu l'as très bien dit, quand on a affaire à des maladies, à des accidents, j'ai essayé justement d'aller interviewer tous ces types de personnes. Gaël, au début de la saison 2, qui a eu un cancer du cerveau à l'âge de 11 ans. Une personne, tu vois, Élise, qui a eu un AVC à 27 ans. Axel, dernièrement, là, l'épisode, je crois, c'est le 24 ou 25, qui lui était champion du monde de motocross, qui a perdu l'usage de ses jambes. Donc, comme tu l'as très bien dit, et c'est vrai qu'à chaque fois, on voit beaucoup de résilience dans le vécu de chacun, et il se laisse pas abattre. Mais écoute, moi j'aimerais qu'on parle un peu plus du coup de toi maintenant. Donc comment toi tu l'as vécu, comment tu as appris que tu avais une leucémie, quelle a été ta réaction, et avant toute chose, est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est vraiment qu'une leucémie? Tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure en parlant donc d'un cancer du sang. Est-ce que quelque chose qui peut se guérir? Comment ça se traite? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte à tout ça?
Ouais, ben écoute, sans entrer trop dans le détail, une leucémie, il y a différents types de leucémies. Donc moi, c'est une leucémie aiguë que j'ai connue. Il y a des leucémies qui sont davantage chroniques, avec lesquelles on peut vivre pendant de longues années d'ailleurs. Moi, c'est une leucémie aiguë. Quand j'étais petit, on appelait ça une leucémie foudroyante, parce que si tu veux, entre le diagnostic et la mort, en fait, il peut y avoir une période très très courte. Donc en fait, c'est une forme de leucémie qui est grave, parce qu'elle est très brutale, et que si on réagit pas très très vite, elle peut t'emporter, en fait. Voilà. Moi, pour te raconter un peu mon histoire, il y a une image maintenant qui me vient en tête quand j'y repense, c'est l'image du match, parce que j'identifie vraiment ce que j'ai vécu à un match. Voilà, j'aime bien le foot, et finalement, ma rencontre avec le cancer, je l'ai un peu vécu comme un match. Et donc, dans un match, ben avant le coup d'envoi, il y a ce qu'on appelle l'avant-match. Et l'avant-match, pour moi, ça a été le moment de l'annonce. C'était il y a pas tout à fait 3 ans, précisément en juillet 2018. J'étais en famille sur la route des vacances, en voiture, quoi. C'était vraiment un moment hyper joyeux, hein, avec ma femme, mes 3 enfants, le coffre plein, les vélos derrière. On partait passer une semaine avec des amis dans un camping. Ensuite, on devait aller descendre le Danube à vélo. C'était un moment vraiment heureux de la vie, quoi. Tout le monde était en forme, y compris moi d'ailleurs, puisqu'il y avait strictement aucun signe annonciateur de quoi que ce soit. Quelques plaies qui avaient tendance à s'infecter un petit peu, mais voilà, rien de, une petite fatigue, mais quand on est en vacances, en plus en camping, on dort par terre, tout ça, on se dit que c'est pas grand chose, qu'on va se reposer et que le lendemain, ça ira mieux. Et puis là, je reçois en fait un coup de fil de mon médecin qui avait eu mes dernières prises de sang et qui a directement vu qu'il y avait un souci, qui m'a dit que voilà, qu'il fallait immédiatement que je me rende à Marseille, à l'Institut Paoli Calmette, donc le centre de référence en cancérologie pour la région PACA, pour faire ce qu'on appelle un myélogramme, donc une ponction en fait dans le bassin, pour analyser ma moelle osseuse et regarder exactement ce qui se passe, quoi. Donc là, si tu veux, tout de suite, c'est demi-tour, quasiment sur l'autoroute, avec toute la petite famille, et direction Marseille, où on ne sait pas trop ce qui nous attend, donc on essaye de se montrer rassurant, on organise les choses au mieux pour tout de suite, dans le souci de préserver les enfants. Donc voilà, la famille se mobilise, les amis prennent en charge les enfants, mon oncle qui habite Marseille nous héberge, tout ça. Et le lendemain matin, à la première heure, à 8h, je vais à l'hôpital, je fais mon myélogramme. Dans l'heure, on est accueillis par ma femme et moi, par un médecin dans une chambre pour nous annoncer le résultat. Et donc là, c'est le double coup de bambou, j'ai envie de dire, parce que le premier coup de bambou, c'est que Ouais, c'est la douche froide. C'est que c'est une leucémie. Voilà, donc ben, leucémie, c'est le cancer, ça fait flipper, c'est synonyme de la fin, de la mort. Donc ça, c'est le premier coup. Le deuxième coup qui arrive dans la seconde qui suit, c'est que c'est une forme un peu, enfin voilà, grave, qui n'est pas de très bon pronostic, et que mon salut passera nécessairement par une greffe de moelle osseuse, puisque les chimiothérapies, en fait, ne suffiront pas pour se débarrasser de la maladie. C'est une forme qui est très résistante aux chimiothérapies. Donc, qui dit greffe, dit qu'il va falloir trouver un donneur compatible. Donc, ça rend les choses encore plus compliquées. Et puis ensuite, il faudra espérer que la greffe fonctionne, quoi. Voilà. Donc ça, c'est, si tu veux, ce que j'ai appelé l'avant-match. Donc là, concrètement, c'est l'état de sidération, quoi. T'es juste KO. Donc au début, t'es sonné pendant les premières minutes. Et puis rapidement, la question qui se pose, c'est la question des enfants. Donc là, tu fonds en larmes, en fait. Hein, donc voilà, c'est vraiment le temps des larmes. Tu te sens anéanti parce que c'est un coup que tu vois pas venir, quoi, et qui arrive de façon hyper brutale, quoi. Voilà, donc ça, c'est.
Et comment tu trouves la force, du coup, après, pour te relever?
Ben, c'est vrai que très vite, en fait, d'abord, t'es rassuré. T'es rassuré parce que, voilà, tu sais que t'es à peu près au meilleur endroit possible pour être soigné. Donc, déjà, t'es dans un centre où t'es très bien pris en charge par des professionnels hyper compétents. T'es dans un pays où on a quand même des moyens pour soigner les gens qui sont juste incroyables. Je vois bien que je me rattache déjà au professionnalisme, en fait, et aux qualités humaines du personnel qui s'occupe de moi, hein, parce que ça met en confiance. Tout de suite, ensuite, c'est les proches qui se mobilisent tout de suite, de façon hyper déterminée. Hein, par exemple, je me souviens très bien, par exemple, de l'annonce, parce qu'une fois qu'on m'a annoncé la maladie à moi, c'est à moi maintenant d'aller l'annoncer aux autres, à mes frères et sœurs, à mes parents, tout ça. Et j'ai le souvenir du coup de fil avec mon frangin, où avant de s'appeler, on se dit ben, qu'est-ce qu'on doit se dire dans ces moments-là, quoi, finalement. Et donc lui, il m'explique avec beaucoup d'humour, comme d'hab, il me dit, bah écoute, je t'inquiète, il y a aucun problème, tout va bien pour toi, t'as juste été recruté par la NASA pour partir sur la Lune, donc bon voyage, tu vas voir, t'es avec des gens hyper pros qui vont bien s'occuper de toi. Et puis du coup, il me dit cette espèce, ce qui est devenu notre credo après, failure is not an option, l'échec n'est pas une option, en référence à la mission Apollo 13. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ce mot d'échec il résonnait de façon très personnelle pour moi. Donc en fait voilà, c'est cette espèce de tendresse incroyable que je vais trouver dans ceux qui sont les plus importants pour moi, hein, mes frères et sœurs, mes parents, ma femme, mes enfants évidemment, de les sentir se mobiliser, et en fait c'est eux d'abord qui me poussent dans le sens de la vie, quoi. C'est-à-dire que tu comprends que de toute façon il n'y a pas à discuter, c'est l'échec n'est pas une option, ça va forcément, l'issue elle sera forcément heureuse, voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose de très très fort. Et puis voilà, énormément de courriers aussi que j'ai reçus, j'ai un carton entier de lettres, de cartes postales, de photos, de ma sœur qui était instite à ce moment-là, tous les mercredis, enfin il y a plein de mercredis où elle prenait des billets de TGV depuis Paris pour faire l'aller-retour dans la journée, venir me voir à l'hôpital juste pour passer une heure, quoi. Elle passait sa journée dans le train pour passer une heure avec moi. Voilà, donc bref, ça a été vraiment les proches, les très proches, les amis aussi qui sont souvent venus me voir, qui tout de suite te donnent beaucoup de force, en fait.
Et du coup, qu'est-ce qui change à ce moment-là, toi, dans ton quotidien? Comment est-ce que tu t'adaptes à ça, en fait? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta pratique, peut-être au niveau de ton taf ou de ta relation avec les gens, etc., tu vois?
Ben, si tu veux, quand t'es hospitalisé pour une leucémie, en fait, tu comprends vite que les 6 prochains mois, tu vas les passer à l'hôpital. Voilà. C'est pour ça que l'image d'Apollo 13, c'est pas juste une image, c'est que concrètement, tu rentres dans une chambre d'hôpital, dans un univers qui est surprotégé, parce que comme tu subis des chimiothérapies, tu es mis en aplasie, donc tu es très vulnérable sur le plan infectieux. Et donc, ben, il faut absolument te protéger de toute source extérieure de contamination, en fait. Donc, si tu te retrouves dans un univers très protégé, nous, on a appelé ça ma capsule, dans le sens où, voilà, t'as l'impression d'être dans Star Trek, hein. T'as des sas pour entrer dans la chambre avec des portes coulissantes. C'est un environnement de haut niveau, quoi. De haut niveau, hein. C'est vrai qu'on a un peu l'impression de partir sur la Lune. Et donc finalement, tes relations en dehors de ta capsule, elles sont inexistantes, hormis celles que t'entretiens par téléphone ou par message. Donc moi, très concrètement, quand je suis rentré, on était au mois de juillet, moi je suis enseignant, j'étais directeur d'école. Ma première question, ça a été, bon, et pour la rentrée, ça se passe comment? Et donc là, les médecins, bon, ils ont pas le sourire aux lèvres, mais bon, ils se disent, ouais, il a pas encore réalisé en fait ce qui lui arrive, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, il est juste pas question que ni que tu fasses cette rentrée-là, ni même en fait la suivante. Hein. Donc moi, tout de suite, ça a été prévenir, quoi. Ben, en fait, tu préviens tes collègues, tu préviens les parents d'élèves qui vont t'attendre le 1er septembre, tu préviens même tes élèves. Moi, j'étais un petit en maternelle, donc. Les gamins, tu vois, quand t'as 3 ou 4 ans, le maître qui est absent à la rentrée, c'est pas normal, quoi. Donc, en fait, je leur ai fait un petit mot, j'ai acheté un bouquin pour leur expliquer un peu ce qui m'arrivait, tout ça. Donc, immédiatement, je me suis concentré là-dessus dès les premiers jours et immédiatement aussi, j'ai dit à tout le monde que, voilà, de toute façon, j'allais m'en sortir, qu'il n'y avait aucun problème, mais qu'ils considèrent que mon départ de l'école était un départ définitif, dans le sens où le jour où je reviendrai, je serai sur un autre projet, je pressentais déjà que ce serait une autre vie pour moi, quoi. Voilà.
Ok. Écoute, c'est assez fort. Aujourd'hui, t'en es où, du coup, de ça? Donc, 3 ans après, quasiment. Est-ce qu'il y a toujours, du coup, une période de traitement? Comment ça se passe aujourd'hui?
Ben, si tu veux, aujourd'hui, moi, je suis en pleine forme. Ce qu'il faut quand même que je raconte, même rapidement, c'est la suite du match, parce qu'en fait, le match, il a été, si tu veux, il y a le parcours, la première mi-temps qui correspond plus ou moins à ce que j'appelle le parcours de soins. Il m'a permis d'être greffé grâce à mon frère qui vit près de Nantes et dont les cellules étaient compatibles avec les miennes, en fait, parce que c'est comme ça que ça se joue. Donc, si tu veux, la greffe a eu lieu, a priori bien réussi, sauf que quand tu te retrouves comme ça, comme je le disais tout à l'heure, t'es très fragile au niveau infectieux. Et en fait, quelques jours après, j'ai développé une infection pulmonaire et je pouvais plus respirer, j'ai été envoyé en réanimation, où là, c'est encore une autre expérience, hein. Là, c'est carrément, pour moi, c'était de la science-fiction, hein. C'était un milieu que je connaissais pas du tout, t'es endormi, et puis tu te réveilles, après avoir dormi pendant 3 jours et 3 nuits, t'es attaché, t'es complètement drogué, t'es plein de médicaments, tu sais à peine parler, tu sais plus écrire, tu peux plus te lever, tu sais pas où t'es complètement paumé. Moi, je croyais qu'on m'avait transféré je croyais que j'étais à Toulouse. Enfin, en fait, t'es complètement à l'ouest, quoi. Et puis évidemment pour tes proches, pour ta famille, c'est une vraie épreuve, c'est une épreuve dans l'épreuve, parce qu'ils te voient dans un état qui fait peur, en fait, hein. Ils s'endorment le soir sans savoir si je serai encore là le lendemain, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc en fait, c'est une expérience quand même où tu touches du doigt vraiment les frontières du monde des vivants, quoi. Et tu te rends bien compte à ce moment-là.
Ça, c'était que... combien de temps après, pardon? Donc, tu as eu 6 mois?
Non, alors ça, c'était pendant les 6 mois.
Ça a été 6 mois après.
En gros, voilà. Je suis rentré à l'hôpital au mois d'août. J'ai été greffé en novembre. Et puis, mi-novembre, je suis parti en réanimation, où je suis resté une quinzaine de jours.
D'accord. Et après, rééducation.
Et après, voilà. Et après, effectivement, y a un moment donné où tu sens que tu bascules du bon côté, quoi. Donc ça c'est top, c'est que tu retrouves petit à petit un peu d'autonomie. C'est-à-dire que concrètement, tu commences à avoir les idées un peu plus claires. Il n'est pas encore question que tu te lèves de ton lit et tout ça. Donc au début, tu passes 24 heures sur 24 dans ton lit, quoi. Donc je fais pas de dessin de ce que ça représente en termes d'intimité perdue, de sentiment de vulnérabilité complet, hein, parce que voilà, tu peux même pas te lever pour aller aux toilettes, donc tout se fait dans le lit. Et en fait, quand t'as 40 piges, tu te projettes pas là-dedans. Ça fait partie des choses. Tu peux imaginer ça pour la grande vieillesse, mais pour toi, tu anticipes pas du tout ce genre de choses. Et puis petit à petit, tu te dis, t'as un jour le kiné qui te dit, Ah, Monsieur Cornet, aujourd'hui, je vous sens en forme. On va essayer de passer du lit au fauteuil. Donc voilà, toi, ton défi, c'est de passer du lit au fauteuil et d'essayer de rester dans le fauteuil 10 minutes. Parce qu'au bout de 10 minutes, de toute façon, t'es incapable de maintenir tes muscles et ton squelette d'aplomb, quoi. Donc il faut te remettre dans le lit, hein. Moi, j'avais perdu 25 kilos. T'es dans un état physique quand même de délabrement complet, quoi. Et puis ce qu'il y a, c'est que tu continues à y croire, et puis petit à petit, il y a un jour tu te lèves, et puis le lendemain tu fais un pas, et puis le surlendemain t'en fais deux, et puis après tu te dis, si j'allais jusqu'à la porte de la chambre, et puis un jour tu sors de la chambre, tu commences à marcher dans les couloirs, et puis là tu sens que ça y est, ça revient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux descendre très bas et très vite, mais en même temps tu remontes aussi très vite aussi, quoi. C'est-à-dire que tu fais des progrès incroyables, tu fais des progrès comme t'as jamais fait dans ta vie, parce que même un jeune enfant, et il galère comme un malade pour réapprendre à marcher. Toi, tu réapprends à marcher, en 3 jours, ça y est, quoi. T'as retrouvé une mobilité. Alors évidemment, pas autant que ce que t'avais avant, mais en tout cas, voilà, t'as une marge de progression qui est juste énorme, en fait.
Ok, donc là, tu passes combien de temps en rééduque, et après, du coup, tu ressors et tu fais quoi?
Ouais, donc en gros, tout ça, je me retape pendant à peu près 2 mois, et puis j'en arrive à peu près au mois de février où je peux enfin rentrer chez moi. Donc là, c'est juste le bonheur, quoi, hein. Quand tu sors de là après 6 mois, c'est indescriptible en termes d'émotions ce que ça représente, juste la caresse de l'air sur son visage, voir une feuille qui tombe d'un arbre, tout est sublimé, quoi. Tout est sublimé. Donc ça, c'est un moment, en fait, assez magique.
La gratitude pour tout, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un moment assez magique à connaître. Donc moi, c'est le moment où je me suis mis à marcher énormément. J'adore la nature. Je marchais beaucoup. Donc je me suis mis à marcher en montagne. D'abord tout seul, ensuite en groupe, parce que ça rassurait un peu mes proches de pas me savoir complètement tout seul en pleine nature. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, j'ai entendu parler d'un programme qui s'appelle Rebond, qui est une espèce de programme proposée par l'hôpital et par l'université d'Aix-Marseille, qui a été mis sur pied par des acteurs du sport de haut niveau. Claude Onestat en particulier, Romain Barnier, le coach de l'équipe de France et du Cercle des nageurs de Marseille, tout ça. Enfin, c'est des gens assez incroyables qui, à un moment donné, se sont dit « Bon, c'est quand même pas possible qu'on passe notre vie à faire des trucs dont le seul enjeu, c'est de savoir si c'est les bleus ou les rouges quand verront le ballon une fois de plus dans le camp adverse. Finalement, tout ce qu'on a, on a tout gagné, qu'est-ce qu'on a construit pendant notre vie, est-ce qu'on pourrait pas en faire bénéficier des patients en rémission de cancer. Voilà, c'était un peu ça l'idée de départ. Et donc, moi, j'ai bénéficié de ce truc-là qui était très expérimental à ce moment-là. J'ai fait partie d'une cohorte de 32 patients et je me suis retrouvé à la Fac des Sports de Lumini face à un coach dont le job, normalement, est de préparer des athlètes aux Jeux Olympiques et qui, là, me coachait comme si j'allais moi aussi chercher la médaille d'or, quoi. Sauf que c'était une médaille d'or dans ma vie, à moi, et j'étais finalement libre de décider tout seul quelle allait être cette fameuse médaille d'or. Et puis l'idée, c'était aussi de te permettre de rebondir un peu après cette maladie et de faire une rupture, quoi, avec ton état de cancéreux, quoi, de te dire, bon, à un moment donné, les médecins, ils ont fait leur job, ils te disent... voilà, t'es guéri, vas-y maintenant, mon gars, fonce, quoi. Et là, en fait, quand les médecins te disent ça, c'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple et les chiffres montrent que 5 ans après un cancer, y a une personne sur deux qui n'arrive pas à reprendre sa vie normalement. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la deuxième mi-temps de mon histoire. C'est-à-dire qu'après la première mi-temps, qui est le parcours de soins, derrière, il y a un vrai parcours de rétablissement qui est aussi une sorte de parcours du combattant. Et celle-là, souvent, elle est moins connue et on l'anticipe moins. Et on a l'impression que dès qu'on va sortir de l'hôpital, on va retrouver sa vie d'avant. Mais en fait, je pense qu'on la retrouve jamais, sa vie d'avant. Ce qui veut pas dire que ce qu'on retrouve ne vaut pas le coup. Bien au contraire, quoi. Je crois que tout prend une saveur incroyable, en fait. Et c'est là où on peut rebondir un peu sur ce qu'on racontait au début, où je pense que effectivement l'épreuve, non seulement elle te rend pas plus fragile comme on le croit souvent, elle te rend pas seulement plus solide, mais voilà, moi j'aime bien le terme d'antifragile, où finalement je pense que l'épreuve elle te renforce, c'est-à-dire quand tu en sors, tu ressors clairement grandi par ce truc-là, parce que t'as capitalisé une expérience incroyable. Et cette expérience, tu peux tout à fait en faire une vraie force, quoi.
Et est-ce que, du coup, il y a une troisième mi-temps là-dedans, comme on en connaît parfois aussi dans le sport, qui est plus festive, pour le coup?
Carrément. C'est-à-dire que la troisième mi-temps, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette maladie, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette expérience? C'est-à-dire que cette expérience, elle est traumatisante sous plein de points de vue. C'est difficile. C'est difficile, et ça, il faut pas minimiser ce que ça représente, quoi. Tu gravis ton Everest, quoi, pendant ce truc-là. Et c'est vrai que t'es entouré, et que c'est hyper important, l'entourage et tout ça. Mais à un moment donné, c'est toi qui face à toi-même aussi, va chercher les ressources où tu peux, en toi, en dehors, chez les autres. Tu trouves tous les moteurs possibles, imaginables de motivation, parce que tu veux vivre, quoi. Tu veux pas mourir. Et quand je dis tu veux pas mourir, d'ailleurs, c'est même pas une histoire que la mort pourrait faire peur ou serait quelque chose de. C'est qu'en fait, ta vraie peur, elle est pas de mourir. Ta vraie peur, elle est d'abandonner ce que tu aimes, tes enfants, ta femme, ta famille. Ça, c'est ça, en fait, qui te maintient vraiment en vie. C'est là où l'entourage, au-delà de ce qu'il peut t'apporter, il est déterminant, parce que la vraie raison de se battre, la raison de ton combat, elle se trouve aussi là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette troisième mi-temps, moi, ce coaching, il m'a tellement plu que, en fait, au premier rendez-vous avec mon coach, il m'a dit, bon, écoute, dans un mois, tu fais quoi? Donc, comme la plupart des gens qu'il rencontrait, moi, j'étais incapable de lui répondre. Je suis rentré chez moi, j'ai un peu tourné dans ma tête cette question. Et le mois suivant, je suis retourné le voir en lui disant, bon, bah, écoute, moi, dans un mois, j'ai décidé que j'allais voir mon frère à Nantes. Mais par contre, je vais y aller par mes propres moyens. Donc, je me suis imaginé un grand voyage à travers la France en partant de chez moi, en vélo d'abord, puis à pied sur le chemin de Stevenson et enfin en kayak de mer, parce que je fais du kayak de mer aussi en descendant la Loire sur 1000 kilomètres. Donc, voilà, ça, c'est la troisième mi-temps. Voilà, c'est aussi ça, c'est de se dire finalement, tout est permis. Après une épreuve pareille, tout est permis. Et en fait, on peut tout s'autoriser. Et il n'y a pas de... Voilà. Et je veux dire, en temps normal, jamais je me serais lancé dans un truc pareil. J'aurais trouvé 1000 bonnes raisons pour me l'interdire. Mais là, en fait, toutes les digues sautent à ce moment-là. Et tu te sens capable de tout, de franchir des montagnes. Donc, ce qui était intéressant en plus là-dedans, c'est que si tu veux, lui... il m'a préparé comme un sportif de haut niveau, comme on peut préparer un sportif de haut niveau à l'exploit. Donc, on a par exemple dressé toute la liste des emmerdes possibles et imaginables sur mon parcours. Donc, la liste était assez longue et conséquente. Mais bon, il y a juste un truc qu'on n'avait pas anticipé à ce moment-là, c'était le Covid qui n'existait pas encore en février. Enfin, en tout cas, c'était un truc très loin en Chine à ce moment-là. Et donc mon voyage n'a pas pu avoir lieu comme ça à cause de ces restrictions-là, mais je suis parti en septembre dernier, je suis parti à vélo, alors j'ai pas descendu la Loire en kayak et tout ça, mais je suis parti de chez moi à vélo pendant 3 semaines pour aller voir mon frangin qui m'avait donc fait cadeau de ses cellules et qui m'a sauvé la vie, quoi. Et ce voyage, il était d'autant plus important parce que on parlait de la troisième mi-temps et c'était justement une manière de mettre un peu un terme à cette expérience-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a mon fiston qui un jour m'a dit au détour d'une conversation, parce qu'on discutait souvent de ma maladie, de mon état de santé, comment ça allait, tout ça. Et mon fiston de 8 ans à l'époque me dit un jour, papa, quand est-ce que tu seras guéri? Je dis, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Tu vois, c'est les questions les plus simples et les plus essentielles auxquelles on a finalement le moins de réponses. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais poser la question à mon médecin la prochaine fois. Donc, j'ai posé la question. Mon fils voudrait savoir quand est-ce que je serai guéri. Donc, le médecin s'est un peu marré. Puis, il m'a dit, écoutez, pour un cancer, c'est au bout de 5 ans. Quand vous êtes en rémission complète pendant 5 ans, au bout de 5 ans, on considère que vous êtes guéri. Et là, je me suis dit, attends, quand t'as 8 ans, t'imagines de te dire, papa, il sera guéri dans 5 ans, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai considéré que ma guérison, je me déclarerai guéri le jour où je serai capable d'aller voir mon frangin à Nantes par mes propres moyens. Voilà. Et donc, en septembre, en arrivant chez lui, c'était clairement, une manière de refermer un peu cette parenthèse-là et de me considérer définitivement guéri. Donc c'est moi-même d'ailleurs qui suis allé annoncer à mon médecin que j'avais le plaisir de lui annoncer que ça y est, j'étais guéri. Donc c'était assez drôle. Voilà l'histoire de la troisième mi-temps.
C'est génial. C'est une très très belle histoire et c'est ouf que t'aies prévu tout ce périple-là. J'espère que tu iras quand même en kayak, parce que c'est quand même assez drôle aussi là de te taper 1000 bornes sur la Loire. Moi, j'ai une dernière question, Benjamin. Dans ta situation, c'est peut-être pas forcément évident, mais je la trouve d'autant plus intéressante. Quand on te diagnostique justement une maladie, quel conseil, toi, tu donnerais à ton ancien toi au moment où ça arrivait pour justement faire preuve de résilience dans un moment aussi compliqué que celui-là? Ce serait quoi?
Écoute, moi, j'aurais tendance à pas parler du moment de l'annonce parce que, comme je le disais tout à l'heure, le moment de l'annonce, en fait, t'es KO. Donc, qu'est-ce que tu vas aller dire à un mec qui est KO sur le ring, quoi? T'as pas beaucoup de prise, en fait, là-dessus. Là, c'est un tel déluge émotionnel que... Mais par contre, je pense que moi, j'aurais des choses à me dire, finalement, en amont de ce traumatisme-là, parce que en fait, faut quand même avoir conscience. Et moi, c'est un truc dont j'avais pas conscience, c'est que tu vois, les statistiques sont cruelles, quoi. On a tous, les uns et les autres, une chance sur deux dans notre vie d'être confronté à un trauma, parce qu'en fait c'est un trauma. Donc voilà, ça aurait pu être au Bataclan, ça aurait pu être, je sais pas moi, dans une tour du 11 septembre. Bon, là moi mon trauma ça a été l'annonce de cette maladie. Et en réalité, on n'est pas préparé à ça et on pourrait l'être davantage, parce que si effectivement on anticipait le truc, dans sa vie concrètement, on peut quand même. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a tendance à mettre un mouchoir là-dessus, on veut pas y penser et on peut comprendre pourquoi. Mais finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on peut anticiper en fait. Donc moi, j'aurais tendance à dire aux gens qu'on peut préparer au mieux ce genre d'épreuve. Voilà, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Je pense par exemple à un bouquin que j'ai lu d'Alain Rod, l'équation du miracle, où il raconte son espèce de règle des 5 minutes. C'est-à-dire que dans sa vie au quotidien, quand une merde lui tombe dessus, petite ou grosse, peu importe, il peut pas s'alarmer sur son sort plus de 5 minutes. Donc c'est un espèce de truc qui est devenu un peu. Donc il dit d'ailleurs que bon, maintenant pour la plupart des merdes du quotidien, quelques secondes suffisent. Mais je parle de ça parce qu'un jour dans sa vie, on lui a diagnostiqué un cancer et effectivement, il a utilisé ces 5 minutes pour accepter ce sur quoi il n'avait pas de prise, en fait, l'annonce de ce truc-là, et ne se concentrer, ne se battre que sur ce sur quoi il pouvait agir. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça a un peu affolé les médecins pour qui c'était pas une réaction normale selon eux, et ils pensaient qu'il était dans le déni complet, alors qu'en réalité, il était très entraîné et donc capable de tout de suite se mettre en position, en mode combat pour agir là-dessus, quoi.
Très cool, très stylé cette règle des 5 minutes. Je pense qu'on peut tous l'appliquer, j'avoue, quotidiennement. C'est stylé ça de se dire qu'à chaque emmerde, tu dois pas y passer plus de 5 minutes. Très cool ça, très cool Benjamin. Écoute, on n'en a pas fini ensemble, là, on a fini pour la petite interview, donc déjà un grand, grand merci pour tout ton partage, là, ton histoire qui est juste extrêmement folle et très inspirante pour tout le monde, je pense, qui écoutera le podcast. On va passer donc, pour pas déroger à la règle, aux questions pour la mention, Benjamin.
Question pour la mention.
Et la première question que j'ai pour toi, c'est quelles sont les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ?
Alors, la première vertu, c'est un mot que j'ai découvert récemment. Je ne savais pas ce que ça voulait dire avant. Donc, c'est la congruence. Je ne sais pas si ça te parle. La congruence, c'est une espèce de point de rencontre entre 3 choses, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà, c'est une espèce de sorte de loyauté envers soi-même, quoi. Donc, je trouve que c'est une très belle vertu et je trouve que c'est un bel objectif. Donc, je dirais la congruence. La deuxième chose, c'est la sensibilité. Parce que la sensibilité, on l'associe parfois, souvent, trop souvent, à une forme de faiblesse. Moi, je crois tout le contraire, en fait, que la sensibilité, c'est ce qui nous permet de ressentir des émotions, en fait, de se passionner. Et que les émotions, au fond, c'est notre carburant. C'est notre carburant pour avancer. Et cette espèce de capacité à remarquer dans notre quotidien la beauté des choses, la bonté des gens, l'excellence sous toutes ses formes. Voilà, je trouve ça hyper, hyper important parce que ça donne foi en la vie, quoi, finalement, tout simplement. Et puis, donc, il en manque un, l'optimisme. Ouais. Ça me parle aussi. Et l'optimisme dans le sens d'un choix. Tu vois, c'est pas l'optimisme. Moi, pendant longtemps, je croyais que, il y avait les optimistes, comme il y avait les blonds, et puis il y avait les non-optimistes, quoi. Non, en fait, l'optimisme, c'est pas une espèce d'aptitude congénitale au bonheur. C'est un choix, en fait. En fait, c'est un choix. On fait le choix d'attendre le meilleur de l'avenir, de ce qui se présente, d'attendre, mais aussi d'œuvrer à sa réalisation, finalement. Voilà. C'est penser qu'on peut avoir un avenir heureux et qu'on peut faire des choses pour le provoquer, quoi. Voilà.
Eh bien, écoute, c'est des bien belles vertus. C'est la première fois, j'avoue, qu'on me lâche le mot congruence et je viens de l'apprendre aussi avec toi. Donc, merci. Je me coucherai moins con ce soir, clairement. C'est une très belle formule. En tout cas, une très belle vertu inédite dans Phoenix. Au top, Benjamin, j'ai une prochaine question. Peut-être que tu as répondu tout à l'heure, justement, avec ce fameux conseil des 5 minutes. Est-ce que tu as un livre ou un film, une série, un podcast que tu as adoré et que tu aimerais partager aujourd'hui?
Alors là, c'est une question hyper difficile parce que j'en ai plein. Parce que tu vois, dans les bénéfices secondaires de la maladie, eh ben, t'as vachement de temps pour toi. Tu peux écouter un tas de trucs, bouquiner autant que tu veux, tous les trucs pour lesquels t'avais jamais le temps avant. Et eh ben là, c'est open bar. Donc ça c'est un vrai bonheur. Donc il faut choisir. Alors ben, ça m'embête beaucoup pour tous ceux. pour lesquels je vais renoncer, mais je vais choisir un chanteur. Un chanteur, parce que d'abord, la musique, ça fait partie des choses qui soignent. On n'en a pas parlé, tu vois, il y a plein de trucs qui soignent. Il y a les produits toxiques de la chimiothérapie, ça soigne, mais la musique aussi, ça fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, la musique m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai un ami qui est un site aussi, qui chante, qui s'est mis à composer. Donc c'était un artiste qui s'appelle Grac, G-R-A-C, Grac. Vous pouvez aller jeter un œil sur YouTube. Il a écrit juste une chanson qui est à tomber, qui s'appelle Un bateau trop grand. Bon, il en a écrit plein d'autres, mais je trouve que celle-ci est particulièrement émouvante. Et voilà, ça, moi ça fait écho. Cette chanson, elle fait écho à l'espèce de discours intérieur qu'on peut avoir quand on se retrouve un peu seul face à soi-même pendant des mois dans son lit d'hôpital. Voilà, et puis je trouve que la musique, ça donne beaucoup d'espoir, et c'est pas simplement les chansons hyper gaies et positives, hein, parce que si vous écoutez cette chanson-là, elle est pas spécialement gaie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en réalité, elle soigne. Voilà, elle fait beaucoup de bien.
Très stylé, encore une fois, Benjamin. C'est la première fois, j'avoue, que j'aurais. Ça me donne d'ailleurs des idées pour la suite, le fait que tu aies répondu une musique. C'est très, très cool. Merci à toi. On va aller regarder, du coup, Grac, donc, qui est un de tes amis. J'ai une dernière question, Benjamin, avant qu'on se quitte. C'est quoi ton prochain objectif?
Alors, mon prochain objectif. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord. D'ouvrir ma section que je vais appeler Rebond Rando Coaching, puisque je me lance à mon tour dans l'accompagnement des patients en rémission. Tu vois, ça m'a tellement plu ce que j'ai vécu dans mon programme Rebond que je me suis à mon tour formé. Voilà, j'ai un diplôme d'onco-coach, ça s'appelle comme ça. Et donc, je vais accompagner en mixant le coaching et la randonnée pédestre des personnes en rémission dans ma région. Voilà, donc ça, à partir de septembre, là, je vais commencer à accompagner les premiers copains à la bataille, quoi. Voilà, pour eux aussi leur permettre de rebondir à leur tour et puis de déployer un peu à plus grande échelle ce dont j'ai eu la chance de bénéficier. Voilà, et puis après, il y a plein d'autres choses. J'ai un petit rêve. Allez, je me lance dans le rêve. C'est de participer en 2023 aux Jeux mondiaux des transplantés avec l'équipe de France à Perth en Australie, puisque en tant que patient greffé, en fait, je participe à des épreuves sportives, hein, qui visent à sensibiliser un peu le grand public à la réussite de la transplantation, à la nécessité du don d'organes, etc., en mettant en avant des athlètes qui sont greffés. Voilà. Donc ça, c'est un rêve d'embarquer toute ma famille, mes enfants et tout ça en Australie pour 15 jours d'épreuves sportives. Ça, ce serait top. Ma maman m'a souvent répété quand j'étais petit que dans la vie, il fallait des rêves, des projets et des solutions de rechange. Donc voilà, mon rêve, c'est celui-là. Des projets, j'en ai plein d'autres. Et puis des solutions de rechange, il va falloir que j'en cherche un peu, mais je devrais pas avoir de mal à en trouver. Voilà.
Trop cool. Où est-ce qu'on peut suivre, du coup, pour ceux qui seront peut-être intéressés ou pour des proches, du coup, ton programme en tant qu'onco-coach, pardon. Est-ce qu'il y a un site là que tu peux donner? Est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, sur quelque chose? si les gens sont intéressés à en savoir plus.
Ouais, le site est en construction. Là, je vais sortir un site rapidement, mais pour le moment, c'est en construction. Le mieux, c'est d'aller de me chercher sur LinkedIn. Et puis voilà, on peut rentrer en contact avec moi facilement. Benjamin Cornet sur LinkedIn. Il y a une ou deux petites vidéos qui présentent aussi le dispositif. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, si tu m'accordes peut-être une petite minute supplémentaire, Enzo, je voudrais pas te quitter sans quand même dire un mot sur ce qui est une sorte de devoir pour moi. C'est le don de moelle osseuse. Puisque moi, si tu veux, si je suis avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai bénéficié justement d'une greffe de moelle osseuse, que c'est une contribution qui, on le sait pas, on le sait très peu, et à la portée d'à peu près tout le monde. C'est quelque chose d'extrêmement simple de devenir un super-héros dans le monde d'aujourd'hui. En fait, si vous avez entre 18 et 35 ans, vous pouvez être inscrit sur un fichier de donneur. Donc, c'est simplement une petite prise de sang. Faites une prise de sang, comme vous feriez un don de sang ou une prise de sang, c'est rien de plus. Et en fait, vous êtes inscrit sur un fichier. On récupère ce qu'on appelle la carte d'identité biologique de votre personne. Et puis, éventuellement, vous pouvez être appelé un jour ou pas, d'ailleurs. Il n'y a aucune assurance où on vous dira, écoutez, on a repéré un patient qui a un besoin de cellules souches qui est compatible avec vous. Donc, est-ce que vous acceptez de faire un don de cellules souches? Voilà, c'est pas grand-chose. La plupart du temps, c'est simplement une autre prise de sang. Hein, voilà, quelquefois, dans un cas sur quatre, ça peut être une ponction dans le bassin, mais c'est quelque chose, voilà, évidemment, de très encadré. Et c'est pas du tout une grosse intervention. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc j'en parle parce que c'est vrai que je trouve qu'on vit un moment où il y a beaucoup de gens et c'est vraiment chouette qui s'interrogent sur le sens qu'ils peuvent donner à leur vie. Là, en réalité, on a juste une occasion de dingue de sauver la vie de quelqu'un, quoi. Et c'est pas très compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a un site qui s'appelle donne-moi-l'osseuse.fr. Il y a l'établissement français du sang aussi qui donne tout un tas d'informations sur là-dessus. Et voilà. Merci d'avance. Et on recherche en particulier des hommes qui ont entre 18 et 35 ans. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui manque le plus. Donc, les gars, là, c'est à vous de jouer maintenant.
Bah, écoute, un très beau message. Clairement, je ne vais pas avoir l'autre choix que d'aller le faire, après ce que tu dis, puisque je suis clairement dans cette catégorie-là. Mais tu as raison, tout le monde peut être du coup un super-héros. Ça a été le cas du coup de ton frère. Déjà, un grand bravo à lui pour ce qu'il a fait. J'ai un dernier petit rituel de fin, Benjamin, avant qu'on se quitte, pour te remercier déjà de tout ce temps-là que tu nous as accordé aujourd'hui. Il y a un petit rituel dans Phoenix. Est-ce que tu arrives à résumer, donc de manière très concise, c'est un peu la punchline de fin, tout ce qu'on s'est dit là depuis trois quarts d'heure en une phrase? Un truc genre boum.
Alors, si étant, j'ai un truc... Je pense à Claude Onesta, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je l'ai eu en formation et il nous a sorti un truc, voilà, un truc qu'il devait dire dans les vestiaires, tu vois, en finale des Jeux Olympiques. Il nous a dit, asseyez-vous sur la plage, regardez la mer et regardez le comportement des baigneurs lorsqu'une vague arrive. Il nous dit, il y a des baigneurs qui essayent de se sauver. Tu vois, qui nagent à toute blinde vers la plage, mais la vague, nécessairement, elle les rattrape, et puis ils se retrouvent sous l'eau, avec du sable dans le calbut. Voilà, ça, pour eux, ça, c'est un type. Il y a les baigneurs qui affrontent la vague, mais la vague est toujours trop forte, donc eux aussi se retrouvent la tête sous l'eau. Il y a ceux qui rusent, ceux qui passent sous la vague. Donc ceux-là, bon, ils sont... Il y a un moment où, effectivement, ils se retrouvent un peu protégés, mais ça dure jamais très, très longtemps parce qu'il y a toujours d'autres vagues qui arrivent derrière. Et puis, il y a ceux qui surfent la vague. Voilà. Et effectivement, je trouve que c'est assez inspirant de se dire que la vague, c'est-à-dire cette espèce d'obstacle, tu peux aussi te servir de la force de cette vague, de la force de cet obstacle, pour aller plus vite et rentrer finalement sur la plage un peu comme un champion. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'une fois sur la plage, ben ça fait pas de mal d'aller donner un coup de main à ceux qui justement ont la tête sous l'eau, et ça donne encore plus de piment à l'histoire, je trouve.
Ouais, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Benjamin. Bonne petite histoire de Claude Onesta pour terminer. Écoute, tout le meilleur pour la suite, pour du coup ta nouvelle formation que tu vas donner, qui a l'air d'être passionnante. Merci encore une fois pour ton temps. Et puis, à très bientôt.
Merci à toi, c'était super, merci.
Et à toi, Benjamin.
Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson, si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a deux choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.